suite dans les idées, Sylvain Gourmand. Il y a 20 ans, à l'été 1996, avec Thierry Grillet, nous produisions pour l'antenne de France Culture une série d'entretiens avec de jeunes artistes et auteurs que nous avions choisi de titrer « L'âge des possibles ». Une série remise en ligne et revisitée avec talent cet été par Chloé Leprince sur le site de France Culture. Clin d'œil au film de Pascal Ferrand qui venait alors de sortir, référence évidemment au jeune âge de nos invités, mais aussi sans doute sentiment incertain d'entrer à la faveur d'une mutation numérique qui s'esquissait à peine dans une nouvelle ère, au-delà de l'âge, un temps des possibles. C'est de ce même constat positif, volontaire, que sont partis trois auteurs pour publier un livre manifeste, politique et artistique, Les potentiels du temps. Ils sont aujourd'hui les invités de la suite dans les idées. Kentuta Quiroz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes curatrice, comme on dit, et théoricienne de l'art. Vous enseignez par ailleurs à Nantes, à l'École nationale supérieure d'architecture. Vous êtes l'une des trois auteurs de ce livre, avec vous, Alyosha Imov. Vous
bonjour.
Êtes également théoricien de l'art et commissaire d'exposition. Et puis, vous enseignez à l'Université Paris 1, sur le cinéma en particulier, je crois. Et enfin, troisième co-auteur, Camille de Toledo, écrivain, à qui l'on doit un certain nombre d'ouvrages parus aux éditions du Seuil notamment, et également impliqué dans l'organisation d'expositions, artistes. Vous publiez tous les trois « Les potentiels du temps » chez Manuela Éditions, un livre que vous avez écrit à trois en juxtaposant vos textes, en choisissant aussi quelques images, un livre qui ressemble à une sorte d'installation à certains égards, un livre à la fin duquel on peut trouver un glossaire que vous avez rédigé, Camille, et dans ce glossaire, on trouve une entrée à B qui est Bartleby. Et dans cette entrée, vous nous expliquez, Camille de Toledo, que il s'agit désormais, après que pendant ce long XXe siècle, la formule de Melville nous ait embarqué dans une forme de négativité, de ne pas l'abandonner, mais plutôt de retrouver son potentiel, si j'ose dire, de remplacer le fameux « je préférerais ne pas » par un « je pourrais ».
Oui, bonjour d'abord, merci de nous recevoir. C'est vrai que il y a ce travail qui est cité par Alyosha et Kentuta de D'Agamben sur Bartleby, qui est donc cette figure du « je préférerais ne pas » et qui est transformée par D'Agamben en cet ange des possibles. Donc déjà, on a même dans la négativité hein, « je ne fais pas ». On se souvient d'ailleurs que chez Melville, le texte de Bartleby est sous-titré « Une histoire de Wall Street ». Donc on a déjà cette articulation avec, on va dire, ce qui fait le fatalisme de notre temps, c'est-à-dire voilà, il y a ce système économico-politique, ce mode de gestion, et on n'arrive pas à le déborder, à le dépasser. Et donc j'ai fait une pièce pour une exposition à Leipzig qui s'appelait « Le Bartleby des temps nouveaux », où je transforme cette figure du « je préférerais ne pas » en un « je pourrais ». Et il y a chez moi toujours cette, au fond, ce travail du conditionnel sur le présent, c'est-à-dire nous pourrions être ceci, nous pourrions être cela. Ça rejoint des choses que vous avez pu entendre dans la suite, dans les idées, sur l'histoire contrefactuelle. Hein. Comment est-ce qu'on travaille le passé pour réouvrir le passé au futur inaccompli du passé, ce qui aurait pu être. Donc il y a toujours ce travail à l'œuvre, et je crois que c'est un temps long, vous parliez en introduction de cet âge des possibles. Depuis, je crois, maintenant une trentaine d'années, c'est un travail récurrent de l'art, de la fiction, de l'esprit, des sciences humaines, pour retrouver voilà, ces possibilités, ces potentiels. Et c'est effectivement l'objet de ce livre.
Un livre d'hybridation, Kentuta Quiroz, c'est très important. On est ici à la suite dans les idées. J'entends cette émission comme cela dans une émission de sciences sociales, mais pour autant les sciences sociales ne vivent pas coupées du monde de l'art, de la littérature. Et ce dialogue, vous l'organisez, par exemple, dans votre réflexion sur le temps. Vous vous servez beaucoup d'un historien qui nous a apporté des outils précieux pour penser le temps. Je pense à François Hartog avec son régime d'historicité.
Oui, en fait, on repart beaucoup de cette périodisation qu'a pensé François Hartog sur les régimes d'historicité, sur comment, à un moment donné, on noue le présent, le passé, le futur dans une époque donnée. Et Hartog parle de plusieurs périodisations, notamment le régime moderne du temps qui se tend vers l'avenir. Et pour qualifier notre moment contemporain, il parle d'un état présentiste. Et donc un moment où l'avenir se défait, l'avenir est pensé comme étant totalement immobile, l'impression d'être dans un perpétuel présent, une impossibilité de se défaire de ce moment d'obstruction du politique. Donc on repart de ce constat-là que dresse Hartog dans ce livre. Mais ce qui nous intéresse dans notre livre, c'est vraiment de récolter ou de collecter des indices qui nous indiqueraient une bascule et qui nous indiquerait une possibilité de dépasser ce régime-là présentiste qu'Hartog définit et identifie. Donc le livre se déploie à cet endroit-là en essayant de trouver des salves d'avenir ici et là, dans la pratique des artistes, dans des mouvements politiques qui sont déjà présents, qui sont déjà à l'œuvre. Donc c'est un peu tout le travail du livre.
Alyosha Imov, Camille de Toledo, parlait d'une trentaine d'années, grosso modo. C'est-à-dire que ces moments de bascule, voilà, on ne va pas dater, il ne s'agit pas de... Ce sont des indices, disait quand tout à l'instant. C'est cette impression que néanmoins, on est au bord, où on a déjà commencé à basculer. Et c'est ça que vous avez envie d'encourager par ce geste d'écriture ?
Oui, c'est ça. C'est une forme de proposition, en fait. Ce qu'on essaye de faire dans le livre, c'est... Effectivement, vous le disiez très justement, on est dans des émissions de sciences sociales, mais on essaye d'être dans une forme de circulation, en fait, entre un geste de proposition, un geste d'écriture, de littérature, un geste... Et en fait, je crois que c'est ça qui nous a d'abord réunis avec Camille de Toledo. Et finalement, une répartition qui ne serait pas d'un côté l'écrivain, l'artiste, de l'autre les théoriciens, ou quelque chose comme ça, mais au même titre dans son travail entre l'art, la théorie, l'écriture, et dans le nôtre, en tant que commissaire d'exposition aussi, la façon dont on peut essayer de transformer la théorie en corps, quoi, quelque chose comme ça. Donc oui, il y a cette forme de circulation qui nous intéresse beaucoup. Sur la question de cette proposition, je crois que d'ailleurs, nos réponses à cette question du potentiel, cette proposition de ce que pourrait être un régime d'historicité basé sur cet enjeu de la potentialité, il me semble qu'on a fait des réponses assez complémentaires entre Camille et le texte, puisque c'est des textes relativement séparés. Et nous, on repart effectivement davantage de notre perspective, quoi, qui est celle de la théorie de l'art et de notre pratique de commissariat, qu'on aime d'ailleurs envisager comme une forme de rhapsodie, en quelque sorte, de tenter de coudre les espaces entre eux, coudre les espaces et les temps entre eux, quoi. Et cette question de la potentialité, vous le disiez, enfin Camille avait commencé à le dire, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas tant, disons, de la définition admise, généralement courante, qui est celle au fond d'Aristote, quoi, qui considère que la potentialité, c'est une capacité à faire quelque chose, ou en opposition, disons, à l'actuel, à ce qui n'est pas déjà là. Et je crois que c'est l'hypothèse première du livre, c'est de considérer effectivement que toutes les fictions sont déjà là, elles habitent le monde pleinement, quoi. Et Hagenbein, dans ce livre Potentialité, définit précisément la potentialité comme la présence d'une absence, comme quelque chose qui est présent malgré son absence. Il prend toujours cette phrase en disant « quand on ferme nos yeux, plutôt que de ne pas voir, nous voyons que nous ne voyons pas ». Donc ce serait en quelque sorte une définition aussi de l'endroit où nous sommes. Et du coup, c'est ça un des enjeux du livre, c'est de repenser de manière très... très spéculative, on fait un peu des grandes théories à partir de une sorte de bricolage théorique, alors, en tout cas pour notre part, c'est de repenser un sorte d'enjeu de ce que pourrait être la fiction pour le 21e siècle, quoi. Et donc, à partir de pratiques qu'on va pas d'ailleurs tant chercher dans... Enfin, qu'on va d'ailleurs plutôt chercher dans le champ de l'art et des pratiques des artistes, et donc non pas tant à partir d'une sorte de brouillage des frontières, et là je crois qu'on rejoindrait d'ailleurs plutôt les thèses de Françoise Lavocat qui vient de publier ce livre majeur qui s'appelle « Faits et fictions » à rebours...
Dont elle est venue parler ici au printemps.
À rebours des thèses panfictionnalistes qui concernent vraiment la seconde moitié du XXe siècle et qui considèrent au fond que tout est fiction, enfin dont Baudrillard peut-être en serait le paradigme le plus polémique, le plus problématique, et donc effectivement non pas repartir d'une sorte de brouillage de cette frontière, mais plutôt à partir de procédures, enfin nous qu'on va étudier plus précisément, mais de métalepse, quoi, c'est une sorte de passage aux forces de frontière, quoi, et de la frontière, et au sein de pratiques, voilà, qui se jouent à l'échelle 1, qu'on revient beaucoup sur les pratiques de performance, mass performances, comme on dit, enfin, performance collective, quoi, à grandeur nature, et qui joue d'un statut de lever, baisser, le statut de la fictionnalité elle-même. Et c'est ça qui nous intéresse beaucoup, quoi. C'est la façon dont ces métalepses, grandeur nature, parce qu'il y a toujours cette métalepse un peu infranchissable dans le champ de la littérature, on ne peut jamais tomber dans le livre ou jamais tomber dans le film, mais quand ça se joue à l'échelle 1, voilà, comment le prédicat fiction, en fait, peut être une ressource stratégique, en fait, pour repenser la politique.
Alors, moi, ce qui m'intéresse, Camille de Toledo, c'est de voir comment vous envisagez les choses de votre point de vue, qui est celui, a priori, plutôt d'un ancrage dans la littérature, c'est-à-dire que vous êtes écrivain, auteur, et de façon peut-être un peu trop conventionnelle, on associe la fiction à la littérature et pas à l'art contemporain. Or, on s'aperçoit que la littérature contemporaine paraît souvent bien moins audacieuse dans ses hypothèses ou dans ses gestes théorique que ne l'est l'art contemporain. Et notamment, si on prend par exemple cette question de la fiction, où l'on trouve, il suffit d'entendre ce que vient de dire Alyosha Imov, des démarches avec la fiction ou fictionnelle, oui, plus audacieuses que ce qu'on peut trouver dans la littérature avec un grand L.
Oui, alors je pense que ça naît d'une vision assez qui repose sur des clivages disciplinaires, c'est-à-dire on a l'idée qu'il y a d'un côté l'art, de l'autre côté. Moi, j'ai une conception très étendue de l'écriture. D'ailleurs, l'écriture pour moi c'est écrire, c'est jamais très clair entre écrire des histoires et écrire l'histoire. Hein, je pense que, d'ailleurs, je reviens à vous demander une date, en fait, sur le moment où ça commence ce combat pour les possibles. Moi, je crois qu'il y a une grande déception dont on n'arrive pas à se relever. C'est une déception collective qui entraîne toute une mélancolie de la gauche. Il y a ce livre d'Enzo Traverso. Nous n'arrivons plus à écrire l'histoire. Des collectifs humains et au-delà n'arrivent plus à écrire l'histoire. Donc moi, il y a toujours chez moi une sorte de tentative, par un geste très performatif de l'écriture, d'écrire à l'échelle 1. Hein, c'est quoi écrire à l'échelle 1? La théorie du monde qui était le marxisme, c'était une théorie qui pensait la possibilité d'écrire à l'échelle 1 pour des collectifs de vaincus. Et au fond, depuis 89, avec et suivant les révolutions arabes, c'est toujours des collectifs humains qui reprennent un peu le flambeau d'essayer d'écrire l'histoire à l'échelle 1. Bon, l'art écrit d'une certaine façon des histoires désormais à l'échelle 1. L'écrivain est très démuni de ce point de vue-là. Donc il est, et c'est pour ça qu'on voit des figures qui occupent trop la scène, je trouve, qui sont des figures de la mélancolie, qui ne cessent de rejouer la fin de la puissance de la littérature, la fin de la puissance. Et je crois que la charge d'une littérature qui croit encore en ses capacités, c'est d'étendre les champs de l'écriture. Alors moi, ce que j'ai fait en Allemagne, un endroit où le langage n'a pas prise, parce qu'en Allemagne, écrire ou dire en français, la force performative du français en Allemagne est réduite. Et donc, je me suis mis à écrire dans l'espace d'exposition, donc en quelque sorte ce que j'ai appelé ces écritures matérielles. Donc là, il y a ce transfert vers la matière. Mais le but, enfin le chemin, la poétique et le politique qu'il y a derrière, c'est écrire à l'échelle 1. C'est renouer avec cette écriture collective, etc. Donc ça, c'est ce qui explique, moi, mes bascules. Et c'est également une conception très étendue de l'écriture, parce que c'est une écriture comme recherche. Il y a l'art comme recherche, mais il y a l'écriture comme recherche. Moi, je bascule en permanence entre l'essai, la pensée, la fiction. J'ai travaillé sur les fictions d'Apocalypse dans l'inversion d'Hieronymus Bosch. Pour moi, mais les romans sont aussi des instruments de savoir. La littérature est d'ailleurs un mode de connaissance. D'ailleurs, je veux dire, voilà, je ne suis pas seul à le dire aujourd'hui. Une façon de rappeler les puissances de la littérature, c'est de lire le littéraire comme savoir, au lieu de le lire comme divertissement. On peut s'emparer des choses. Donc voilà un peu ma position. Et on le retrouve évidemment dans les potentiels du temps, parce qu'on retrouve beaucoup de ce qu'ont été mes obsessions. Comment est-ce qu'on quitte le XXe siècle? Comment est-ce qu'on repense des avenirs? Comment est-ce qu'on écrit une fiction du XXIe siècle qui soit agissante, qui intervienne à même le monde? Et on retrouve donc ces écritures expositionnelles, etc. Mais voilà, et en fait on partage ça. Alyosha et Kantuta, venant du champ de l'art, pensent...
Justement, voilà, moi voilà. J'aimerais entendre Kantuta sur le regard... croisé en quelque sorte, c'est-à-dire comment vous regardez la littérature, dont Camille serait un représentant pas très représentatif, si j'ose dire, du fait de l'ouverture qu'il vient de décrire, de son rapport à l'écriture, mais comment vous regardez la littérature depuis ce monde de l'art dans lequel vous œuvrez avec votre collectif de curation qui s'appelle Le Peuple qui manque, Kantuta Kiros.
l'écriture de Camille, il y a des ressources très importantes pour nous. Enfin, certainement une pratique pirate de la théorie dans laquelle on peut se reconnaître beaucoup. Dans ce qu'on essaie de penser, en tout cas depuis notre pratique curatoriale, il y a une volonté d'essayer de penser une écologie des savoirs. On reprend un peu ce terme à Boaventura de Sousa Santos, ce penseur portugais décolonial qui essaie d'articuler des savoirs scientifiques, des savoirs indigènes, des savoirs subalternes. Et dans notre pratique curatoriale, les savoirs produits depuis l'art sont, entrent dans cet écosystème qui défait la rupture moderne entre le savoir scientifique et des savoirs qui ont été assujettis, qui ont été tenus en lisière par la hiérarchie des connaissances. Donc c'est une préoccupation très importante pour nous. Et les formats curatoriaux qu'on imagine sont à cet endroit-là faits pour redéployer, essayer de penser un nouvel écosystème autour de ces savoirs. Et en effet, dans la littérature contemporaine, Camille en est un représentant, mais ils sont nombreux maintenant, aujourd'hui, à essayer de penser des ressources de cet ordre-là et qui sont extrêmement utiles et sans séparation avec les pratiques artistiques, parce que tout ça est quand même déjà dans une forme de circulation très forte.
Ce qui nous intéresse beaucoup, c'est façon dont les écrivains, précisément, historiquement, ont été les plus à même, les plus au meilleur endroit pour inventer des techniques d'écriture. Et là, on rejoint vraiment, pour le coup, la thèse de Bruno Latour sur la question, avec ce master d'art politique qui avait fondé la Sciences Po, etc.
Une école qui s'appelle SPIP, qui existe encore.
Ça nous intéresse beaucoup la façon dont, du coup, ces techniques d'écriture, quoi, qui peuvent être appropriées, et plus largement, quoi, cette hétérogénéité maximale, ontologique, quoi, des ressources qui existent au sein des mondes littéraires, etc., et qui sont beaucoup plus riches, en fait, que l'écriture. Voilà, c'est une sorte de pauvreté d'écriture des sciences sociales, quoi. C'est une sorte d'écriture qui... comment on fait pour renouveler ces méthodologies d'écriture? Alors, les tournants postmodernes des sciences sociales, que ce soit dans le cadre de l'anthropologie, dans le cadre historiographique, dans le cadre des études géographiques. Enfin, il y a eu évidemment diverses tentatives, mais disons qu'on essaie de poursuivre, ce grand chantier-là.
Ouais. Mais il s'agit aussi peut-être de dissiper un malentendu qu'ont pu produire les sciences sociales, à savoir le fait qu'elles aient eu tendance, avec leurs enquêtes, à mettre en évidence des déterminismes et donc à donner l'impression qu'il n'y avait plus de marge de manœuvre. Or, je parle de malentendu parce que, pour citer un nom massif, qui est la référence la plus courante dans les sciences sociales, aujourd'hui, Pierre Bourdieu ne cessait de rappeler que les sciences sociales étaient là pour défataliser le monde et que mettre en évidence des déterminismes sociaux, c'était un moyen de se redonner des marges de manœuvre pour penser l'avenir, pour souligner des potentiels, Camille de Toledo.
Oui, et je pense qu'on a d'ailleurs vraiment, on est au cœur de cet effort, c'est-à-dire que le fatalisme historique, le fatalisme du réel, c'est vraiment ce que les potentiels du temps essayent de défaire par l'art, par la fiction, par la littérature, par la poétique, par tous les moyens. Donc, c'est très juste, je trouve, de rappeler précisément ce travail des sciences humaines pour créer des hiatus. Et je pense que c'est, j'ai pas du tout la connaissance de l'histoire des sciences humaines pour dire, qu'il y aurait eu un moment d'un déterminisme ou d'un fatalisme. Je pense que simplement c'est l'usage. Moi, je me suis toujours intéressé aux usages de la pensée. Et les usages de la pensée, dans la séquence qui commence avec les années 80-90, ça devient un usage pour renforcer des effets de réel. Moi, je m'étais battu à un moment donné contre un manifeste des écrivains voyageurs qui essayaient de définir le réel d'une certaine manière en disant tiens, l'idéologie est tombée, 89, le mur s'est tombé et désormais on a le réel, les chemins, la poussière, il y avait toute une chose comme ça. Eh bien, ce qui était en jeu, c'était le réel. C'est toujours une définition du réel. Quelle autorité
jusqu'à Jean-Pierre Raffarin, un premier ministre à l'époque, qui nous parlait de la France d'en bas et d'aller voir la France avec des vrais morceaux de réel dedans, en quelque sorte.
Mais ça, je pense que ça, le suivisme, en fait, du politique par rapport à ce socle du réel, il est devenu suffocant, insoutenable. Il l'était déjà presque, moi, dans mon adolescence, j'ai un souvenir comme ça, mais il ne fait que se renforcer, se resserrer. Et donc, tous les efforts, et aujourd'hui, les sciences humaines en sont évidemment conscientes. Je parlais de l'histoire contrefactuelle. J'en reviens au potentiel du temps. Un des textes très importants pour moi, qui est derrière à la fois l'exposition potentielle et les potentiels du temps, c'est un texte de Ricoeur, où il parle de ces futurs inachevés du passé. Et nous sommes en quelque sorte les traducteurs de ces temps inaccomplis. Et donc notre position, c'est vraiment une tentative de, moi dans le dernier texte, transmettre, de définir la mission de transmission comme trans, comme passage, comme mouvement. C'est ça, c'est une façon de nous considérer, de nous repositionner dans le temps comme transmetteurs de ces possibilités. C'est-à-dire, je crois, nous guérir en quelque sorte de la déception. C'est-à-dire, oui, ça ne va pas tout accomplir. Nous n'arriverons pas à faire la carte, on parle quand tout à l'heure, Alyosha, la carte à l'échelle 1-1, la carte des possibles superposée au monde, on n'y arrivera pas de notre seul temps. C'est pour ça qu'il y a ce geste vraiment qui est tourné vers les enfances. On parle de ce qui est à naître, de ce qui veut infinir dans le monde, de ce qui... Voilà, tout cet effort-là, je crois qu'il est vraiment très collectif, simplement il est embrassé pour la première fois, je crois, aussi clairement dans le temps par ce travail en commun.
À vous entendre, je pensais à une démarche qui me semble participer de cette réflexion sur le feuilletage des temporalités, la nécessité des va-et-vient entre les temporalités, ce que l'on met aujourd'hui sous l'appellation archéologie des médias, où par exemple des artistes ou des chercheurs vont s'intéresser à des médias mort-nés, à des médias imaginaires qui, au 19e siècle, voire même au 18e siècle, ont vu le jour, ou même pas vu le jour, mais qui sont aujourd'hui des machines potentielles incroyablement passionnantes et dont pour lesquels il faudrait songer à inventer des mises à jour, Alyosha Imov.
Oui, absolument. Enfin, en tout cas, s'il y a un archéologue des médias auquel on pense immédiatement, c'est Yves Fiton qui est en fait très important dans le cadre de ce livre, en fait, sur lequel on revient beaucoup.
L'un des rares en France à s'inscrire dans ce mouvement encore récent.
Absolument, ouais. Mais on revient beaucoup sur ce livre qui est assez important pour nous, qui est Mythocratie, en fait, pour un nouvel imaginaire de gauche, la façon dont, selon lui, il est nécessaire de réinventer, en fait, une sorte de mythologie de gauche.
Qui n'a rien à voir avec le storytelling.
Qui n'a rien, évidemment, en opposition au storytelling, absolument.
Le storytelling étant peut-être justement ce mode de renforcement du réel, quoi. Ce sont les récits qui maintiennent un réel comme il est.
Au fond, j'ai le sentiment, puisqu'on est revenu sur ce moment quand même 89 qui est important. 89, c'est évidemment la chute du mur de Berlin, mais c'est aussi le texte que j'ai toujours pour ma part trouvé d'une très très grande bêtise de Fukuyama. C'est-à-dire que c'est aussi symptomatique, ce commentaire à chaud de ce qui est en train de se passer, finalement souligne que on serait pris dans la tenaille entre d'un côté l'impossibilité d'imaginer des potentiels à cause du fatalisme ou l'impossibilité de le faire en raison du fait même que la notion d'histoire n'a plus aucun sens.
Oui, mais je crois que vous disiez il est bête. Ce texte qui devient le refrain des années 90 sur la fin de l'histoire et le dernier homme, il y a quand même certaines personnes qui ne sont pas n'importe lesquelles, qui le prennent au sérieux. Hein. Derrida, Spectre de Marx, c'est une réponse. Hein. Donc il comprend qu'en fait, dans ce refrain, il y a quelque chose qui se joue très fortement.
Quand il est bête mais symptomatique. Enfin,
Et on retrouve les usages de la pensée, c'est-à-dire que l'enfermement du devenir... Il part de là, hein, c'est-à-dire que cet alliage comme ça, démocratie-marché, on voit que, moi j'ai beaucoup suivi à l'époque, tous les mouvements indigènes du Chiapas jusqu'à Gênes, repris par la question, par les mouvements Occupy, le mouvement des places, etc. Ce ne sont que des manifestations, en quelque sorte, des soulèvements, puisque c'est un thème fort, hein, ce sont des soulèvements réguliers, récurrents, pour défaire ce réel enfermé, qui est défini par ce refrain Fukuyama. Voilà, il n'y a qu'un seul horizon historique et sociopolitique. Et ces tentatives-là, il faut les entendre, je crois, ces tentatives précisément de soulèvement. Il faut voir que par ces récits mineurs répétés, ces gestes nombreux qui vont du Chiapas jusqu'à Mohamed Bouazizi et l'auto-immolation, ça fait des récits mineurs qui font sens, qui créent justement un régime du possible, de potentialité. Voilà, ce sont des beaux soulèvements, il faut les entendre. Et donc, ce cadre qui a été posé en 89, il faut simplement l'entendre et continuer à le découdre et voir en quelque sorte cet effort collectif commun pour le découdre.
Soulèvement, c'est le titre de l'exposition qui vient d'ouvrir de Georges Didier Huberman au Jeu de Paume, à la Galerie du Jeu de Paume à Paris. Je voulais votre conception de cet objet que j'ai devant moi, Les Potentiels du Temps, qui est un livre. Comment vous imaginez cet objet éditorial et dans quelle relation en particulier avec les autres formes que vous investissez, notamment celle de l'exposition? Pour le dire autrement, pourquoi c'est important de continuer à écrire et à publier des livres?
Bon, c'est toujours un geste de spirale, en fait, dans notre pratique, qui passe d'une écriture curatoriale à une écriture cinématographique, à une écriture livresque. Bon, je pense que ce qui relie toutes ces formes, c'est ce que disait un peu Alyosha tout à l'heure, cette manière de penser rhapsodique, en fait. C'est-à-dire d'essayer de coudre ensemble des possibilités, des indices. Et en fait, bon, c'est toujours plus ou moins la même chose. Alors, le privilège du curateur, c'est d'avoir un rapport extrêmement erratique à ses objets de recherche, de ne pas avoir de corpus extrêmement fixe et de pouvoir toujours redéployer une forme à partir d'un autre médium, une obsession à partir d'un autre médium. Ça, c'est vraiment un privilège extrêmement, extrêmement fort quand on n'est pas chercheur pur, de pouvoir vraiment se balader, de retourner en fait, les objets, de les repenser depuis un autre endroit.
Mais Camille de Toledo, il y a une matérialité du livre aussi. Tout à l'heure, vous opposiez au fond le caractère immatériel de l'écriture avec la matérialité d'une installation d'écriture dans une exposition. Mais quelle place pour le livre entre ces deux ?
Ouais, je pense que simplement, les écritures matérielles qui vont chercher du côté de l'espace de l'art ou même au-delà même des espaces de l'art, à même le monde, c'est toujours pour se relever de cette impuissance supposée du langage. Je crois, moi, énormément dans les forces du livre. Pas dans les forces de l'esprit, mais dans les forces du livre. Je pense qu'il y a des circulations. J'aimerais que les potentiels du temps puissent remplacer tous les programmes que l'on entend de nos politiques quotidiennement. Ce serait un souhait. Maintenant, je pense qu'il faut faire avec le réel et je pense qu'on n'arrivera pas exactement au même ventre que les programmes de nos hommes politiques. Mais petit à petit, peut-être.
Bien sûr que si, on marquera l'histoire encore plus.
Petit à petit.
Merci à tous les trois. Je rappelle le titre de ce livre manifeste, Les potentiels du temps, art et politique. Il est co-signé donc Camille de Toledo, Alyosha Imov, Kantuta Kiros, il paraît chez Manuela Édition. Vous trouvez toutes les références bibliographiques sur la page de La Suite dans les idées sur le site de France Culture où vous pouvez réécouter cette émission Ad Vitam Aeternam et où vous pouvez également vous abonner au podcast. C'était La Suite dans les idées. Sylvain Brumeau, attaché de production, Catherine Donnet à la technique aujourd'hui, Cédric Châtelus à la réalisation, Jean-Christophe Francis. Et c'est Étienne Klein que vous retrouvez dans quelques instants sur l'antenne de France Culture pour sa conversation scientifique.